Journal de Maïma. Tapou. Je tourne en rond dans la cuisine, furieuse. Tout le monde m'a abandonné, même Clem ne m'a pas défendu. Elle s'est contentée de se trémousser dans sa tenue de baroudeuse et de détourner les yeux en tripotant son collier rouge. T'en fais pas, Clem. J'ai compris le message par télépathie. Un tueur rôde sur Iva Oa. Tu n'es qu'une enfant. Comme Yann est ta maman, je suis responsable de toi. Et patati et patata. Devant moi, appliqué, Poé et Moana préparent des firi-firi, les beignets au lait de coco, en respectant scrupuleusement les instructions de Tanae. Assises l'une à côté de l'autre, on dirait qu'un seul cerveau commande leurs quatre mains, qui pétrissent la farine et le sucre, coupent les gousses de vanille, râpent le coco. Qu'elles ne comptent pas sur moi pour entrer dans leur balai. Hors de question que je mette la main à la pâte. Je l'ai déjà, le fil. À la pâte. J'envie les poules qui caquettent derrière la fenêtre, plus libres que moi. Dire que j'ai vraiment cru être devenue l'adjointe de mon capitaine. Tu parles. Dès qu'il y a le moindre danger, je suis éjectée. Je m'éloigne et m'arrête un instant devant le tableau noir. Avant de mourir, je voudrais. Je lis distraitement quelques mots laissés par les derniers pensionnaires, déjà repartis loin d'Iva Oa. Gagner 120 millions d'années au loto. Trouver la billetterie pour le paradis et acheter un billet aller-retour. Avoir 18 enfants et 73 petits-enfants. Une écriture masculine, évidemment. Un peu plus loin, dans un cadre en compagnie de Madly, sa dernière amoureuse, Brel sourit toutes dents en avant. Un sourire de poney. Pas étonnant qu'il se soit si bien acclimaté. D'après lui, les hommes prudents sont des infirmes. Et les femmes, vieux misogynes. Pas étonnant non plus que tu ne sois plus sur la terre des hommes. C'est si facile de parler de l'enfance avec des mots de poète ou le pinceau d'un peintre, tout en laissant sa femme élever ses gosses dans le plat pays à 15 000 kilomètres de là. Brel et Gauguin, même combat. Cette île n'aurait pas dû s'appeler les marquises, mais les marquis, les ducs, les petits rois à la noix de la principauté des Cocoteraies. Je suis énervé. Je n'en peux plus de tourner en rond dans l'odeur de coco vanille. Je pense à Yann et à sa cour de lectrice suçant leur stylo sans écrire un mot. Je pense au corps de Titine poignardé sur son lit. Je pense à cette enquête que je pourrais faire avancer. Tanae me regarde tourner en rond comme un poney attaché à son piquet. S'inquiète. Improvise un compromis. Maïma, tu veux me rendre un service? Va me ramasser des copras sur le séchoir dans le jardin. Mais tu ne t'éloignes pas. Le copra, c'est la noix de coco séchée, la fortune de l'île. On trouve des séchoirs dans chaque maison de chaque vallée. La noix de coco sert à tout, se laver, se crémer, se parfumer. Je ne réponds pas. Je ne suis pas un chaton à qui on ouvre la porte du balcon pour qu'il ne fasse pas ses griffes sur le tapis. Je m'écroule dans le canapé face à l'un des deux grands miroirs et j'attrape le dépliant du Festival des Arts des îles Marquises. « Merci du coup de main !» soupire Tanae. « J'y vais. » Dès que Tanae sort avec son panier, je bondis. « Tu vas où ?» demande Poé. « Faire un tour. T'as pas le droit de sortir. » Poé a un an de plus que moi et elle pourrait être ma mère. « Je vais juste à la cave, dire au revoir à Titine. Ça, j'ai le droit. »« Non, t'as pas le droit. » renchérit Moana. « C'est un endroit tapou. » Moana a 2 ans de plus que moi et elle pourrait être ma grand-mère. Tapou ici signifie tabou. Ce sont les marquisiens qui ont inventé le mot, pour désigner ce qui est interdit et sacré, les gens, les lieux, et même les objets. En résumé, les tabous sont les règles qui empêchent les adultes de vivre. Des règles démodées que les enfants ont pour devoir de faire exploser. Tabou, tabou, tabouche, dis-je en posant un doigt sur mes lèvres. Je claque la porte de la salle Maeva derrière moi. Un regard à droite, un regard à gauche. Tanae est occupée sous les bougainvilliers. Je sprinte. Le phare de Tanae se situe 50 mètres plus loin dans l'allée. On m'a dit de rester à la pension. Je ne désobéis pas. L'escalier qui descend à la cave est sombre et raide. Je m'apprête à dévaler les marches. Dans le noir, j'y vois mieux qu'un chat. Quand j'entends... des pas. Des pas qui remontent de la cave. Des pas qui sortent du lieu tabou. Je m'oblige à ne pas bouger. Qui peut sortir d'un lieu tabou? Titine n'est tout de même pas ressuscitée. Ou alors, le curé? Tanae? Ce sont des pas lourds, des pas d'homme. Soudain, la faible clarté provenant du bas de l'escalier disparaît. Une carrure imposante bloque toute lumière, tout en continuant de gravir l'escalier. Un homme, tatoué de la tête aux pieds. Il est âgé, plus de 60 ans, je dirais. Il porte une moustache blanche en brosse de dictateur, des cheveux gris frisés, une chemise marquisienne à manches courtes d'où dépassent deux mains d'étrangleur, dont l'une s'accroche à une canne de promeneur. Il a l'air gêné de s'être fait surprendre, baisse les yeux quand il me croise et s'éloigne vite. Qui est ce type? Je le suis des yeux autant que je peux. Il avance en boitant légèrement, jambes arquées, une démarche à la Charlie Chaplin, puis je dévale 4 à 4 les marches de la cave. Titine dort. Elle est allongée sur un matelas posé à même le sol, sur un grand tissu blanc orné de croix marquisiennes bleues, dans la tenue où elle a été trouvée morte. Une liquette imprimée de marguerites géantes, énorme, à en rendre jaloux les bouquets d'oiseaux de paradis que Tanae a installés tout autour de son lit. Il veille sur son dernier sommeil, tels des papillons orangés figés. Une question me vient soudain. Titine ne sera pas enterrée ici. Mettra-t-on son corps dans un avion jusqu'à Bruxelles, via Papeete et Paris? Le parcours inverse de son Jacques, mort à Paris, inhumé ici. Une question, puis plein. Qui prendra en charge ce dernier voyage? Que deviendront ces chats? Titine ne verra donc jamais Venise, la vraie, ni sa Belgique devenir championne du monde de foot, ni devenir française, ni être honorée d'un prix Nobel pour le génie d'un écrivain de bulles. Titine ne reverra jamais le seul homme qu'elle ait aimé dans sa vie. Je repense à ce pendentif, cette perle noire qu'elle portait autour de son cou, une top gemme, un bijou d'une valeur inestimable à ce qu'il paraît. Était-ce un souvenir de son amoureux? Tanae a pris soin de recouvrir le cou de Titine d'un fin foulard et de laisser le pendentif autour de son cou. Est-ce que Titine sera enterrée avec lui? Mes yeux se troublent. J'observe le foulard noué en écharpe, mais je ne vois aucun bijou. Je sens mon pouls s'accélérer d'un coup. Doucement, mon petit cœur. Doucement. Tanae m'a assuré qu'elle avait accroché cette perle au cou de Titine. Personne n'est entré depuis dans ce lieu tabou, à part le curé, Tanae, Poé, Moana, moi et ce type tatoué. Cet homme qui remontait avec sa canne, qui a évité de me regarder dans les yeux, tête baissée, comme un voleur. Je remonte les marches en courant, hors de moi. Il faut être la pire des ordures d'Iva Oa pour violer ainsi un lieu tabou et dépouiller une morte, même pour une perle top gemme qui vaut plus de 200 000 francs pacifiques. J'atteins en moins de 5 secondes l'allée du soleil redouté devant le pharé. Je fais défiler dans ma tête les consignes de Yann, de Tanae. Surtout, ne pas rester seul. Surtout, ne pas s'éloigner. Sauf que ce voleur de perles n'a pas eu le temps d'aller loin. Je m'autorise un sprint jusqu'au bout du jardin. La route passe devant la pension. Il n'y a que 2 directions. Vers le port à droite, vers le village à gauche. Si le boiteux n'a pas accéléré... J'y parviens, essoufflé. J'avais raison. Le voleur n'est pas pressé. Il marche toujours, 100 mètres plus haut, sur sa droite, sans aucun poids apparent sur la conscience, s'appuyant sur sa canne, dans son étrange démarche de canard, ou plutôt de cochon boiteux d'avoir eu trop longtemps une corde attachée à une patte. Le suivre? La question est vite réglée. Je ne peux pas le laisser s'enfuir. Je franchis le portail du soleil redouté. J'accélère le pas pour me rapprocher. Pas trop. Assez quand même. Je grignote mon retard, mètre après mètre, comme un chien errant qui suit un inconnu qu'il prend pour son maître. Exactement comme dans le film de Charlot. Je ne suis plus qu'à 50 mètres derrière lui, à peine caché par le rideau de bananier. Si Chaplin se retourne, je suis fichu. Je sais que Yann et les autres filles sont parties à la cabane du maire, dans la même direction, mais j'en suis encore loin, à plus 1 kilomètre et 10 tournants. Mon cœur cesse de battre brusquement. Je me suis approché assez pour observer les tatouages qui dépassent de la chemise de Charlie. Des écailles dans son cou, des serpents qui dégoulinent telle une sueur noire sur ses bras, jusqu'à ses mains, jusqu'à ses doigts. En une goutte d'encre noire et ronde. La perle. Ce type se promène avec le pendentif de Titine serré dans son poing. La perle se balance au bout de sa main, comme si elle lui appartenait. Je prends d'un coup conscience du danger. Je ne vais pas renoncer pour autant. Pas maintenant. Je dois juste faire davantage attention. Progresser par petits bonds, en me dissimulant derrière les troncs des bananiers, des caféiers, des papayers. Façon 1, 2, 3 soleil. sprinter sur 10 mètres, puis m'immobiliser, me cacher, recommencer. 1, 2, 3 soleils, redouter. Des fois, je suis sidéré par ma propre débilité. 1, 2, 3. Charlie Chaplin s'est retourné. Je reste planté sur la route bitumée, à 30 mètres de lui. On se défie du regard, comme deux chats sur le même territoire. Même si je sais bien que je n'ai aucune chance à ce jeu-là, mes yeux doivent briller comme ceux d'une gamine paralysée de peur, alors que ceux de l'homme en face de moi ont la froideur de l'absence de remords, mêlée à la fièvre exorbitée des acteurs dans les vieux films muets en noir et blanc. Presque comme s'ils ne voyaient pas les couleurs, le bleu pacifique et le vert cocotier. Presque comme s'ils ne me voyaient pas, ou plutôt, que je ne comptais pas, que je n'étais qu'un élément perturbateur dans son décor. Un bruit de moteur, un écho à ses pas, un bourdonnement à faire cesser. Un regard de fou, un regard de fiou, surtout. Cette foutue mélancolie polynésienne, le blues du Pacifique, cette déprime que j'ai lue si souvent dans les yeux de maman. J'hésite à crier. Si Charlie fait un pas, je hurle. J'appelle au secours et je m'enfuis. Je suis rapide, plus fine et vive que ce boiteux. Si je coupe droit dans la bananeraie, il n'a aucune chance de me rattraper. La perle noire s'est figée au bout des doigts de Charlie. Je crois apercevoir 2 autres perles de verre briller au coin de ses yeux. Puis, sans prononcer un mot, le vieux marquisien me plante là et poursuit sa marche, lentement, claudiquant. Je ne vais pas le lâcher pour autant. S'il croit m'avoir effrayé avec son regard de mort-vivant, je dois juste être plus prudente. Je laisse un peu de distance, 100 mètres, un virage. Je perds l'homme de vue quelques instants. Mes pensées rythment mes pas. N'accélère pas, Maïma. C'est peut-être un piège. N'accélère pas. J'ai bien fait. Je revois Charlie un peu plus loin, à la sortie d'un virage qui surplombe l'océan. Il a continué de marcher au même rythme. Ni soucieux, ni inquiet. Il est sacrément gonflé. Il suffirait que j'appelle à l'aide, crie au voleur. N'importe qui, un éleveur, un habitant interviendrait. Avec sa canne et ses jambes arquées, Charlie n'a pas l'air en état de cavaler pour se sauver. Comment peut-il oser se promener ainsi en plein jour avec cette perle volée au poignet? J'obtiens la réponse à la seconde où je me pose la question. Charlie ne porte plus le bijou. Plus aucun pendentif ne dépasse de sa main. Ce vieux rusé a profité du bref moment où je l'ai perdu de vue pour se débarrasser de la perle. Si ça se trouve, il fait même semblant de boiter. Je peste contre ma naïveté. Qu'est-ce que je croyais? Que Charlie allait se laisser prendre la main dans le sac. Sous ses airs d'acteur muet qui avance au ralenti, il m'a embobiné. Logique. Il a eu peur d'être dénoncé, il a balancé le pendentif quelque part, n'importe où, accroché à une branche de pistachier ou caché sous une feuille de bananier. Il reviendra le récupérer plus tard, n'importe quand. Même en s'y mettant à 10, comment le retrouver? Autant chercher un noyau de litchi dans une palmeraie. Charlie continue d'avancer cas à cas, comme s'il ne s'était jamais arrêté. Arrivé en haut de la longue montée, il a le choix entre descendre vers le port, il passera alors forcément devant le tiki aux fleurs, puis la cabane du maire, ou filer tout droit vers l'aéroport. Charlie ne choisit ni la première direction, ni la seconde route. Il coupe directement dans le sens de la pente, pleine forêt, et disparaît. Quelques branches voltigent encore derrière son passage, puis reprennent leur place. Je n'en reviens pas. Il n'y a rien par là. Charlie doit être un vieil ermite qui a planté sa tente sur un méhaé dans une vallée et vit en chassant le cochon sauvage, en cueillant des baies et en chapardant dans les maisons isolées pour se payer de quoi boire. Ouais, je change d'avis l'instant d'après. Ça ne colle pas. Charlie n'avait pas l'air ivre, même s'il marchait en titubant. Sans m'en rendre compte, j'ai avancé moi aussi. Je suis parvenu à hauteur du tiki aux fleurs. De l'autre côté de la route, une jument qui s'en fout broute des feuilles de capoquier. Instinctivement, je me penche vers les fleurs sauvages dans le fossé. Je fouille du regard entre les étoiles blanches des lianes de cire et les poils roses des queues de chat au cas où le reflet d'une perle noire brillerait. Avant de pester une nouvelle fois contre ma stupidité. Charlie pourrait tout simplement avoir glissé le collier dans sa poche. Et s'il s'était caché derrière un tronc, prêt à bondir sur moi quand je vais passer? Pourquoi continuer d'avancer? Je m'arrête, net. Sans même l'avoir anticipé, Je me retrouve nez à nez avec le tiki aux fleurs, à demi enfoncé dans le fossé. Le cinquième, si je me fie à l'ordre dans lequel je les ai présentés à Clem. Le tiki censé diffuser le mana de la gentillesse et de la sensibilité. Le seul que je n'ai jamais croisé. Mon Dieu. Je n'en crois pas mes yeux. La perle noire est accrochée au cou de la statue. Elle pend sagement au creux de l'opulente poitrine de pierre. Aucun doute possible. C'est celle de Titine, la top gemme, je la reconnais. Je tends la main, hypnotisé par la sphère noire. C'est du moins ce que je crois. Sans que je puisse résister, comme si un mana plus puissant que ma volonté me l'imposait, mes yeux délaissent le bijou et remontent vers le visage du Tiki. Je le connais. Je l'ai déjà vu. Je suis incapable de dire où, mais je sais que ce visage aux yeux démesurés, au front large et aux cheveux fleuris, je l'ai déjà vu. Qui ? Où ? Je dois trouver. Je dois rapporter le pendentif à Tanae. Je dois... La forêt s'ouvre devant moi, au moment précis où je vais saisir la perle entre mes doigts.